Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. La Russie, l'Ukraine et le pourtour de la mer Noire sont depuis l'Antiquité un grenier à blé stratégique, un des bassins d'origine de l'agriculture et le changement climatique promet d'être favorable à la production agricole dans ces régions. En attendant, l'invasion de l'Ukraine entamée par la Russie en février dernier et qui risque de durer encore quelques mois a déjà fait sentir ses effets, des effets qui viennent s'ajouter à ceux délétères de la pandémie et de son impact sur le commerce international, sans compter les familles décimées. Répercussions agricoles donc, certaines immédiates et locales et d'autres durables et mondiales. Hausse des prix des matières premières, hausse du prix des engrais, le prix du pétrole multiplié par 4 en 2 ans, celui du gaz par 10 sur la même période, le blé par 2,5. Les prix des matières premières flambent à une vitesse record et le monde se découvre une nouvelle fois à la merci de leurs vastes oscillations. Regard avec nos invités par téléphone depuis Ouagadougou au Burkina Faso, Kako Nouboukpo, commissaire chargé de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Jean-Jacques Hervé, président de l'Académie d'agriculture de France, membre de l'Académie des sciences de Russie et de l'Académie des sciences agraires d'Ukraine. Bonjour.
Bonjour.
Et Mathieu Brun, directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, FARM, chercheur associé à Sciences Po Bordeaux et co-directeur de l'ouvrage Le Déméter 2022, Alimentation, les nouvelles frontières, dans une coédition Club Déméter et Iris. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Jean-Jacques Hervé, comment expliquer l'emballement actuel des prix? Je redonne quelques exemples. Les prix de l'énergie étaient en mars 4 fois plus élevés que leur point bas d'avril 2020 au cœur de la pandémie. C'est la plus forte hausse depuis 1973. L'augmentation sur les matières agricoles atteint, elle, 80% au plus haut depuis 2008, tandis que les prix des engrais se sont envolés de 220%. C'est le plus grand choc sur les produits de base jamais enregistré depuis 2008. Comment expliquer cet emballement, Jean-Jacques Hervé ?
C'est difficile d'expliquer cet emballement parce qu'il est très injustifié d'une certaine manière. Le blé qui se commercialise aujourd'hui a été produit, semé en 2020, récolté en 2021, donc dans les prix coûtants de 2020-2021. Et donc les plus mauvais coûts de production pour du blé, la tonne, c'est en gros 200 euros. Mmh. Et le prix aujourd'hui, comme vous le disiez, Marie-France, c'est 400 euros. La seule explication, c'est la spéculation. C'est-à-dire qu'on anticipe une raréfaction des produits, on anticipe d'autres hausses, et par conséquent, le prix se déconnecte totalement d'une référence à un prix coûtant. Il y a un coût d'opportunité, et je crois qu'on mesure là la faiblesse de l'OMC, qui depuis des années refuse, pour les produits alimentaires, de mettre en place des systèmes de régulation. Ça fait peur à tout le monde de mettre des systèmes de régulation. Pourtant, on sait d'expérience, et nous en France en particulier, que sans les systèmes de régulation, on n'aurait jamais pu assurer le développement de la production agricole pour couvrir plus que les besoins de la France et faire de la France un pays exportateur.
Alors on reviendra sur la question de la spéculation et les façons de lutter contre cette spéculation. Mathieu Brun a un commentaire et après ça je passerai bien sûr la parole à Kako Nouboukpo qui nous expliquera comment les pays d'Afrique contiennent et essayent de contenir cette flambée des prix. Mathieu Brun.
On est devant une triple crise. D'abord une crise de l'offre en raison des chocs climatiques, en raison des capacités de production de chaque pays. Donc une crise de l'offre à laquelle s'ajoute une crise de la demande. On a eu les impacts de la crise du Covid, avec une relance économique très forte, des nouvelles formes de consommation après des changements et des interruptions dans les systèmes alimentaires mondiaux. Plus globalement et sur le plan structurel, on a une hausse de la demande en produits carnés, en produits céréaliers, en produits oléoprotéagineux sur la planète. La Chine a un appétit grandissant, l'Union européenne, les pays africains aussi sont en transition alimentaire. Et puis une troisième crise, cette fois-ci, comme Jean-Jacques Hervé l'a mentionné, une crise géopolitique avec ce qui se passe du fait de l'invasion russe en Ukraine, qui touche des acteurs majeurs de l'approvisionnement de céréales. La Russie et l'Ukraine représentent à eux deux près de 30% de l'exportation mondiale de blé, 80%, 70% de l'exportation de produits issus des huiles de tournesol ou de la trituration du tournesol. Et donc là, on a une crise géopolitique majeure, sans compter qu'elle s'inscrit, cette hausse des prix, sur une tendance plus forte depuis près d'un an avec la hausse de l'énergie, avec une hausse des prix des matières premières agricoles qui avait déjà bien entamé l'année 2021.
Kako Nubukpo, comment les pays d'Afrique vivent-ils cette flambée des prix et quelles sont les solutions pour tenter de contenir cette ascension des tarifs, Kako Nubukpo ?
Oui, nous vivons difficilement cette crise parce que c'est pour nous une addition de crises, c'est-à-dire qu'il y a la crise climatique, la crise sanitaire, la crise sécuritaire, la crise politique dans la sous-région avec les coups d'État et puis la crise géopolitique liée au conflit ukrainien. Donc cette addition de crises engendre deux impacts nocifs, hein, un impact sur l'offre et un impact sur la demande. Donc sur l'offre, comme Mathieu l'a dit, nous constatons une hausse sans précédent des prix des intrants agricoles. Par exemple, l'urée, aujourd'hui, c'est à $960 la tonne contre $510 la tonne il y a un an. Donc, une multiplication par deux. Quand je prends la potasse, par exemple, on est à $800 la tonne aujourd'hui contre $235 il y a un an. Donc, une multiplication quasiment par quatre. Ce qui fait que nos agriculteurs, qui sont déjà très pauvres, ne pourront pas faire face à cette hausse des prix et donc nous nous attendons à une réduction de l'offre agricole. Vient s'ajouter l'impact négatif sur la demande parce que comme nous importons du blé et comme Jean-Jacques l'a dit tout à l'heure, confirmé par Mathieu, nous avons une hausse du prix du blé sur le marché international qui se répercute dans nos boulangeries. Et donc on voit beaucoup de nos pays qui ont déjà des hausses du prix du pain. Et ce qui fait que cette addition de deux grands impacts sur l'offre et sur la demande engendre des pressions insoutenables sur les budgets des États. Mmh. Et donc, pour nous, il faudrait distinguer le très court terme, donc la situation d'urgence, et puis les implications de moyen long terme.
Mmh. Alors, Jean-Jacques Hervé, comment réagissez-vous à ce que vient de dire Kako Nubukpo ? Et peut-être, à ce stade de l'émission, il serait intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe réellement sur place, c'est-à-dire en Russie et en Ukraine. Alors, on a parlé, vous l'avez évoqué, la spéculation, mais concrètement, quel est l'impact de la guerre à ce jour sur les terres agricoles ? La question des ports, bien sûr, avec probablement, mais je parle sous votre contrôle, des exportations qui sont totalement ou partiellement entravées et peut-être à distinguer l'Ukraine de la Russie d'ailleurs, Jean-Ricard.
C'est le problème majeur. L'énorme bassin dit des blés de la mer Noire, qui est alimenté par l'Ukraine, la Roumanie, ne l'oublions pas, le Kazakhstan, la Russie, qui sont les principaux producteurs de céréales destinées à l'alimentation humaine en particulier, sortent sur la mer Noire. Ils sortent sur la mer Noire avec, en Ukraine, un ensemble de ports de construction récente, très capables, pouvant exporter sans doute plus de 80 millions de tonnes de grains par an. En Russie, il y a un port en eau profonde qui peut exporter une vingtaine de millions de tonnes par an, et mais beaucoup de fluviaux maritimes, de péniches, qui peuvent recharger des plus gros navires dans la mer Noire ou qui peuvent caboter jusqu'aux côtes méditerranéennes. Et le Kazakhstan dépend de la Russie pour rejoindre la mer. Aujourd'hui, les assureurs ne couvrent plus les navires empruntant la mer Noire, pratiquement. Même au départ de Constanza, qui n'est pas touchée par le conflit, les assureurs sont extrêmement réticents. Donc même sans les sanctions, il y a un frein aujourd'hui à la sortie des grains d'Ukraine. Donc l'Ukraine a aujourd'hui un stock de, on ne sait pas trop combien, vraisemblablement plus de maïs que de blé, peut-être autour de 5 millions de tonnes de blé en stock, 6 millions, je ne sais pas, personne ne sait vraiment. On a un stock de maïs de sans doute 17, 18 millions de tonnes qui ne peuvent pas sortir, sauf par les voies ferrées qui permettent de faire coïncider les rails aux écartements ex-soviétiques et les rails aux écartements européens. Et là, on peut faire du transvasement de wagon à wagon. On irait plus vite si on avait du blé en conteneur, d'ailleurs, au passage. Mais un train, c'est 1200 tonnes. Un wagon, c'est 60 tonnes, 50 tonnes, 59 tonnes exactement en Europe, 65 tonnes dans le réseau ferré ex-soviétique. Donc, pour exporter 1 million de tonnes, il faut 1000 trains.
Alors, je sais que c'est un projet qui vous est cher. En tout cas, vous l'avez abordé, vous travaillez sur cette question. Parce qu'effectivement, ces stocks, que va-t-il en advenir ? Est-ce qu'ils vont pourrir sur place ? Ou bien, alors, cette idée des trains, pour permettre finalement aux Ukrainiens de vendre ce qu'ils ont déjà récolté.
Je regrette pour ma part qu'on n'ait pas peut-être entendu en son temps lorsque je proposais que l'Europe négocie sans que ce soit nécessairement lié à un partenariat éventuel de l'Ukraine avec l'Union européenne, négocie avec les producteurs ukrainiens pour travailler ensemble à l'export. Pour un projet qui m'est toujours cher et qui me paraît toujours avoir du bon sens, qui consisterait à tenir compte du fait que la France et l'Europe, d'une façon générale, ont aujourd'hui des coûts de production qui sont en gros deux fois supérieurs aux coûts de production en Ukraine et en Russie, au demeurant, et que par conséquent, avec des différences de qualité. Et pour nourrir l'Afrique, qui a besoin encore d'importer, qu'elle ne peut pas encore assurer la couverture totale de ses besoins alimentaires, il faut des blés à haute teneur en protéines que nous n'avons pas vraiment chez nous. Et donc, je pense qu'on avait intérêt, qu'on a toujours intérêt à réfléchir à ce qu'on pourrait appeler une logistique à destination, c'est-à-dire pour le Maroc, pour la Tunisie, pour l'Afrique centrale, avec l'offre en qualité nécessaire à ces pays, et peut-être aussi avec des offres en prix. Parce qu'à partir du moment où le producteur européen voit leur coût de production couvert, où les producteurs ukrainiens voient leur coût de production couvert avec une grande marge, en gros, l'égal à leur coût de production considérable, le consommateur africain pourrait espérer que la force de l'Union européenne et d'une liaison avec d'autres producteurs permette de maîtriser les prix.
Alors, je ne sais pas si vous souhaitez à ce stade, Kako Nubukpo, réagir peut-être.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment distinguer la réponse à l'urgence des réponses plus structurelles. Dans le cas de la réponse à l'urgence, avec l'OCDE, plusieurs partenaires au développement se sont mobilisés et à l'heure actuelle, les engagements s'élèvent à 2,5 milliards de dollars à peu près. Et donc, nous, on est en train de travailler à l'identification des véhicules financiers idoines pour que ces engagements se matérialisent et qu'ils puissent permettre de faire face à l'urgence. Mais ce qui m'inquiète structurellement, c'est toujours se remettre à l'Union européenne pour combler ces déficits. Parce qu'en termes d'incitation, tout ça fait que depuis 60 ans, l'Afrique n'a pas compris que c'est à elle de se nourrir. Donc j'ai toujours un peu peur lorsque les excédents européens ont pour destination l'Afrique. Mais je comprends bien qu'en cas d'urgence, il faille quand même, comme l'a dit Jean-Jacques, trouver les solutions les plus pragmatiques.
À l'Afrique de se nourrir, c'est vrai que la solution serait de fait d'augmenter la production locale. Avec cette question, est-ce possible ? Réponse, Mathieu Brun, après ça je reviendrai peut-être avec Kako Nubukpo pour savoir ce qu'il en pense.
Avant de répondre à cette question, je voudrais juste apporter une précision qui me semble importante. Qui sont les pays destinataires de ces exportations de céréales qui viennent d'Europe, d'Ukraine ou de Mer Noire ? Finalement, il y a très peu de pays qui sont capables de produire un peu plus pour exporter. C'est principalement la Russie, l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis, l'Argentine, l'Australie, donc un nombre très très limité. Par contre, la demande en céréales, elle est très importante au niveau mondial. Il y a près de 500 millions de personnes, un gros demi-milliard de personnes qui dépendent de ces céréales. Mais ils ne sont pas dans tous les pays du monde. Et si on regarde le continent africain, il y a surtout l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient qui dépendent à une hauteur extrêmement importante de ces importations de céréales. Quand on regarde au sud du Sahara, en Afrique subsaharienne, les pays sont relativement dans une situation correcte, même s'il y a des transmissions de hausse des prix sur d'autres matières premières. Mais vraiment sur les céréales, la question se pose surtout sur les ménages urbains, là où on consomme du blé, notamment au petit déjeuner, parce que la plupart du temps, on peut remplacer ces céréales par d'autres amylacées, par d'autres productions végétales qu'il faut pouvoir soutenir. Et donc, c'est là l'importance d'avoir des politiques publiques agricoles de développement qui soient à la hauteur des enjeux. On le voit bien, on l'a analysé au sein de la Fondation Farm, les politiques publiques agricoles de soutien, le financement de l'agriculture aujourd'hui en Europe, aux États-Unis est extrêmement important. Il est 3 à 4 fois plus important que dans les pays d'Afrique et d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'il y a un rattrapage extrêmement important à fournir, des investissements qui doivent être colossaux dans la recherche, dans les infrastructures, dans la production agricole chez les producteurs. Et ça, c'est un élément qui me semble absolument important de bien rappeler que on est dans une situation où en fait on a une transmission des prix qui montre aussi la fragilité du système international qui est mondialisé, donc avec des transmissions de prix sur d'autres productions. Le riz pour l'instant n'est pas très touché mais pourrait augmenter, il a augmenté à cause des prix du fret, mais dans le futur ça pourrait poser d'autres problèmes. On voit déjà des États qui ferment leurs frontières parce que leur sécurité alimentaire, il faut le rappeler, c'est la première des sécurités. Et quand un peuple a faim, c'est là où il peut y avoir de l'instabilité politique.
Et déjà, cette augmentation du riz et cette fermeture des frontières avait déjà eu lieu au moment de la pandémie. Donc là, accroissement et accélération du phénomène. Je vais revenir avec vous, Jean-Jacques Hervé, sur les questions de la... On a parlé des ports, de la production. Je rebondis juste avec Kako Nubukpo. La question, Kako, qui serait d'augmenter la production locale en Afrique. Vous disiez tout à l'heure que l'Afrique devait se nourrir. Que ça fait des décennies qu'elle en parle et que les choses n'avancent pas. Voilà, quelles seraient les articulations à trouver?
Oui, il y a trois articulations à faire. La première, c'est vraiment la hausse de la productivité. Les rendements croissent, mais pas suffisamment pour tenir compte de la hausse démographique. Il faut quand même avoir à l'idée qu'on a une population dont la taille double tous les 25 ans. Donc c'est un défi colossal du point de vue de la hausse de la productivité et de la production agricole. Ensuite, il y a un deuxième défi, c'est celui des services à l'agriculture, c'est-à-dire l'accès au crédit pour les producteurs, l'accès à l'assurance, la disponibilité des magasins de stockage, des pistes pour que les productions puissent être écoulées vers les bassins de marché. Et puis enfin, troisième défi, c'est celui des politiques agricoles. C'est-à-dire qu'on voit une myriade de projets agricoles sur le continent africain, mais on ne voit pas trop la cohérence entre ces projets. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut faire en termes de politique agricole? Est-ce qu'on veut stabiliser les prix? Est-ce qu'on veut stabiliser les revenus? Vous savez qu'historiquement, l'Union européenne a préféré stabiliser les prix et les Américains font plutôt du découplage, donc ils stabilisent les revenus et laissent les prix fluctuer. Bon, dans le cadre de la réforme de la PAC européenne, l'Union européenne s'ajuste un peu sur la donne américaine. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout ce dont on vient de parler, c'est quand même du côté de l'offre. Et du côté de la demande africaine, il y a un problème, c'est que les populations sont très pauvres. Donc, vous pouvez avoir des disponibilités agricoles et alimentaires, mais si les gens sont trop pauvres pour acheter des aliments, vous voyez, le problème ne sera pas résolu. Donc, il y a tout un travail à faire en termes de redistribution des richesses et de réduction des inégalités. Et donc, on aurait tort d'avoir un tropisme exclusivement agricole. Et c'est vraiment comment on articule nos sociétés, nos économies, de sorte à ce qu'il y ait une prospérité partagée.
Jean-Jacques Hervé, il reste une minute avant la fin de cette première partie d'émission. J'avais cette question à vous poser sur la question de l'impact de la guerre sur les terres agricoles. Je vous la poserai peut-être en ouverture de la deuxième partie. Un commentaire à ce stade de l'émission sur ce qui s'est dit.
Je pense qu'on est placé. En effet, on a des contraintes à très court terme. Et on a évoqué tout à l'heure la façon dont on pourrait, avec l'Europe par exemple, aider les Africains à passer cette zone, cette de perturbation. Puis on a des enjeux à très long terme. Et peut-être, pour répondre à Kako, faut-il que l'Afrique renforce en effet ses moyens de recherche technologique, s'approprie toutes les connaissances qui sont aujourd'hui possibles avec les nouvelles technologies génétiques qui ne sont plus aussi brutales que les OGM d'il y a quelques années et qui sans doute permettraient de relever l'enjeu que vient de souligner Kako, c'est-à-dire augmenter l'efficience, augmenter la productivité. Nous sommes avec la crise russe confrontés au problème du coût de l'énergie. L'engrais, c'est d'abord de l'énergie, parce que on fabrique l'engrais d'une façon extrêmement brutale, en oubliant que la production pendant jusqu'à l'invention de la chimie des engrais, ça marchait avec les rhizobiums, c'est-à-dire les petits microbes qui, dans le sol, pompent l'atmosphère, l'azote de l'atmosphère, les 4/5 de notre atmosphère, pour former un azote assimilable par les plantes. Il faut continuer de travailler sur des choses comme ça, pour inventer à la fois des plantes capables de se nourrir mieux, plus efficacement, peut-être de faire fonctionner le sol de façon encore plus efficace.
On vous retrouve, Jean-Jacques Hervé, avec Mathieu Brun et Kako Nouboukpo, qui est avec nous depuis Ouagadougou. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la guerre en Ukraine et l'impact sur les questions alimentaires. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. Kako Nouboukpo, commissaire chargé de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En studio, Jean-Jacques Hervé, président de l'Académie d'agriculture de France, membre de l'Académie des sciences de Russie et de l'Académie des sciences agraires d'Ukraine. Et Mathieu Brun, directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, Farm, chercheur associé à Sciences Po Bordeaux, co-directeur de l'ouvrage Le Déméter 2022, qui a pour titre Alimentation, les nouvelles frontières, une coédition Club Déméter et Iris. Jean-Jacques Hervé, on a parlé de l'impact de la guerre sur les ports ukrainiens, les ports de la mer Noire. Qu'est-ce qu'il en est des exploitations, des terres agricoles? Est-ce qu'elles sont en Ukraine très impactées par ce qui se passe? Ou malgré tout, le travail continue alors, je ne sais plus à quelle période de l'année on sème et on récolte. Mais voilà, est-ce que le processus se poursuit de façon à peu près normale?
Oui, le conflit de la Russie en Ukraine touche principalement les villes, les centres industriels et les dépôts énergétiques, qui sont des cibles d'affaiblissement de la capacité de réaction militaire de l'Ukraine. Les terres agricoles sont plutôt calmes. Les agriculteurs français installés en Ukraine, que je contacte régulièrement, ont fait leurs travaux de semis de cet hiver sans aucun problème, quelques petits travaux de printemps sur les cultures d'hiver sans problème, et terminent en ce moment leurs semis de maïs et de tournesol. Ce qui va se passer, c'est que les exploitants ukrainiens, qui n'ont pas la protection de la politique agricole commune, sont extrêmement vigilants sur les capacités de commercialisation de ce qu'ils produisent. Avec plus de 16 à 17 millions de tonnes de maïs dans leurs silos, ils ne vont pas augmenter la surface emblavée en maïs cette année. Ils vont plutôt effectivement essayer de faire le plus de tournesol qu'ils peuvent. C'est une plante qui est très exigeante du point de vue agronomique, qui demande un peu de repos d'une culture à l'autre. Et donc, ils sont presque au taquet, les Ukrainiens, pour la superficie qu'ils peuvent ensemencer en tournesol. Donc, il n'y aura pas une grosse augmentation, mais c'est sûr que c'est le plus facile à transporter, y compris par train, et surtout quand on se dit qu'on a en tête le fait que le rendement du tournesol, c'est en gros 2,5 tonnes par hectare, et c'est 50% d'huile, en gros. Donc ça fait 1,25 tonnes à sortir par hectare. Ça n'a rien à voir avec les 7 tonnes du maïs. Ça divise par 7, en gros, le volume de charge de transport. Mmh. C'est la même chose en Russie. Mmh. Les producteurs agricoles russes continuent de produire.
Oui, ça, j'étais moins inquiète pour la Russie que je ne l'étais pour l'Ukraine.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, l'Ukraine est gênée parce que, elle, sa sortie principale, c'est la mer Noire. Elle est bloquée. Donc, la Russie va trouver une alternative et elle a aussi des stocks parce que ces deux pays, l'Ukraine et Russie, puis le Kazakhstan dans la foulée, se caractérisent par une démographie très basse, 38 millions d'habitants dans l'Ukraine avant la guerre, 130 millions d'habitants en Russie, mais la capacité de production, c'est pour plus de 250 millions d'habitants en Russie et c'est pour 100 millions, 150 millions d'habitants en Ukraine. Donc ces pays ont une vocation exportatrice. Même si l'Afrique augmentait ses capacités de production, ce qu'on souhaite tous, je pense, il y aurait quand même un intérêt à aller chercher une productivité qui, là-bas, est intéressante. Donc la Russie, aujourd'hui, va développer une diplomatie, comme elle l'a fait après les premières sanctions suivant l'annexion de la Crimée, vers les pays acheteurs de grains.
Là, vous pensez à l'Afrique du Nord ?
Je pense à l'Afrique du Nord.
Oui.
La Russie peut très facilement décider du prix de la tonne transportée par le transsibérien, soit à l'intérieur du territoire russe jusqu'à Vladivostok, soit par le Kazakhstan, puis la Chine vers les ports du sud, et ensuite envoyer sur des Panamax ce qu'il faut pour faire le tour de l'Inde et puis arriver par le canal de Suez sur les ports d'Égypte pour alimenter sa station céréalière qu'elle a construite il y a quelques années à Tarnous en Syrie, et desservir comme ça le Maroc, l'Algérie et l'Égypte, où on attend ce blé russe et les Russes peuvent faire le prix qu'ils veulent. Le prix politique qu'ils veulent. Et donc, il y a aujourd'hui une opposition entre ces pays d'Afrique. Je pense que ça explique une grande partie de la neutralité de ces pays au Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union européenne.
Alors évidemment, avec aussi peut-être une Afrique du Nord qui bénéficiera plus rapidement, peut-être, que l'Afrique subsaharienne de ses ventrusses et autres. La question, et après ça je vais vous repasser la parole Mathieu Brun, la rivalité entre la Russie et l'Ukraine, donc on a bien compris qu'avec le conflit, l'Ukraine était particulièrement impactée de façon négative, que c'est finalement la Russie qui va se retrouver et qui se retrouve aujourd'hui en position de force. Alors, vous évoquiez dans la première partie de l'émission cette solution qu'apporteraient les voies ferroviaires pour permettre aux Ukrainiens de vendre leur blé. Voilà, situation compliquée pour l'Ukraine. Jean-Jacques Hervé, la rivalité entre la Russie et l'Ukraine sur les questions de matières premières agricoles, elle est très forte depuis longtemps.
Je ne sais pas répondre vraiment à cette question, parce que ce qui est singulier, ce qui est difficile à comprendre aujourd'hui dans la réaction de la Russie depuis 2013, c'est son acharnement à s'attaquer à son principal client, qui est l'Union européenne, qui représente même 80% de ses recettes d'exportation. Et donc, il y a quelque chose de fondamentalement incompréhensible, vous voyez, dans ce choix anti-économique, en quelque sorte, de la Russie. En plus, il faut bien reconnaître que la Russie n'a pas vraiment de politique agricole. Elle a laissé faire les opérateurs qui, face à des sanctions, ont réagi. Moi, j'étais en Russie en 97, j'ai vu la réaction à la crise financière de 1998, la crise asiatique, et j'ai vu les Russes reprendre en main les élevages de volailles et puis les productions céréalières, parce que les volailles, c'est comme on dit, des céréales à deux pattes, pour substituer aux importations américaines et européennes une production locale. Et là, avec les nouvelles sanctions contre la Crimée et ailleurs, les mêmes opérateurs, ou de nouveaux opérateurs, ont pris la main, ils ont redéveloppé la production, avec une dizaine de grands groupes que j'ai identifiés assez bien, qui atteignent une vocation, une taille internationale.
Mathieu Brun, commentaire, et j'aimerais qu'on parle peut-être des fragilités européennes face à cette guerre, et qu'est-ce que l'Europe doit revoir dans sa stratégie finalement, Mathieu Brun ?
Un commentaire peut-être pour aller dans le sens de ce qui a été dit sur la question des stocks et de la spéculation. Jean-Jacques Hervé l'a mentionné un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, le principal problème en matière de crise alimentaire, c'est celui de la volatilité des prix. Ces prix qui évoluent de manière très rapide, très soudaine, et qui ont un impact jusqu'au niveau le plus local. Et comme Kako l'a souligné un petit peu plus tôt, la crise alimentaire, c'est pas tant une question d'offre. Aujourd'hui, l'offre est là. On n'a jamais produit autant grâce aux progrès techniques. Mais c'est une question de demande, de justice sociale et de précarité. Les stocks sont un élément géopolitique majeur aujourd'hui de contrôle et de rapport de force et de pouvoir. Une grande partie des stocks sont contenus ou en Chine, qui s'assure de pouvoir maintenir un approvisionnement de sa population en matière alimentaire, en denrées agricoles alimentaires. Aujourd'hui, l'Union européenne est très fragile. Sur ces stocks, on est à peine à un mois et encore peut-être un petit peu moins de stocks alimentaires, quand les États-Unis sont à deux mois. Et donc, il y a un enjeu de transparence. Du jour au lendemain, on peut libérer, notamment la Chine le peut, elle l'a fait sur le maïs, libérer une certaine quantité de stock et donc affoler les marchés, faire augmenter les prix, baisser les prix à la hausse ou à la baisse. Et donc là, on est vraiment sur un enjeu d'anticipation avec des acteurs qui profitent de la situation, qui spéculent à tous les niveaux, hein. Je parle bien entendu des grands acteurs internationaux, mais aussi à l'échelle locale, on l'a vu en Tunisie, des gens qui stockent un peu plus pour pouvoir écouler un peu plus tard des matières premières agricoles qui sont nécessaires. Alors quand on en vient à la question de l'Europe, aujourd'hui il y a un débat important, il se fait sous fond de discussion autour de la souveraineté, hein. C'est un mot qui est revenu à la mode depuis maintenant la pandémie, souveraineté sur les masques, souveraineté sur les engrais, mais aussi sur les céréales. La question est de savoir dans quelle mesure nos modèles alimentaires et agricoles vont pouvoir résister à ces fluctuations, à ces attaques aussi. On a une stratégie qui a été mise en œuvre et qui est en cours d'être mise en œuvre au plan européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et l'enjeu n'est pas ici de produire plus en Europe pour pouvoir nourrir là où on a besoin sur le long terme, mais bien d'aller dans le sens de transition alimentaire en diminuant aussi notre consommation de produits animaux, puisque Jean-Jacques l'a rappelé, les animaux sont des céréales à pâtes.
En tout cas, les volailles. Mais alors peut-être pas les...
Les porcs aussi,
peut-être.
Peu.
Kakounou Boukpo, vous souhaitez réagir à ce qui vient de se dire ?
Oui, pour insister sur l'initiative FARM, qui a été annoncée il y a quelques semaines par le président
Macron.
Macron.
Oui.
Voilà, avec ses trois volets, solidarité, commerce et production. pour dire que nous nous reconnaissons dans ces trois volets. Donc le volet solidarité, il est important et c'est pour ça que nous mobilisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, un fonds d'urgence avec l'appui des partenaires au développement. Mais il y a aussi le volet commercial qui me semble plus problématique avec les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique, justement, qui finalement n'ont pas permis à l'agriculture africaine de produire pour l'Afrique, mais qui nous a quelque part laissé dans une situation d'importateur de produits agricoles. Donc là, il y a un travail à faire pour une vraie coopération gagnante-gagnante. Et sur la production, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Mathieu l'a dit tout à l'heure, et je crois que l'idée de développer des protéines végétales, c'est une idée qui est très pertinente avec les initiatives comme la Grande Muraille Verte, mais l'initiative Farm participe de cela. Nous, ce que nous disons à nos producteurs, c'est vraiment l'adaptation. C'est-à-dire que cette année, on ne pourra pas faire d'épandage des engrais, donc il va falloir faire des techniques de microdose, il va falloir développer de la fumure organique. Donc l'intensification agroécologique, c'est quelque chose qui nous paraît tout à fait fondamental. Donc je crois que, comme toute crise est porteuse d'opportunités, ce qui est intéressant comme apprentissage lié à cette crise, c'est vraiment l'idée d'une souveraineté agricole africaine qui ne s'oppose absolument pas à un commerce qu'on pourrait qualifier de win-win, mais qui est la seule voie pour un continent d'1,3 milliard d'habitants. Il faut avoir en tête vraiment qu'en Afrique de l'Ouest, cette année, il y a à peu près 40 millions de personnes qui risquent de sombrer dans une insécurité alimentaire très forte. Et donc, il y a vraiment urgence.
Avec cette crise qui risque bien sûr de durer, peut-être au-delà, on peut espérer bien sûr un règlement du conflit en Ukraine qui soit le plus rapide possible, mais l'impact va être un impact durable. Il y a plusieurs éléments que je souhaiterais aborder d'ici la fin de l'émission. C'est cette question de financiarisation, on l'a déjà évoqué, financiarisation croissante, je ne sais pas si on l'appelle financiarisation, spéculation, en tout cas le résultat est le même. Et ce sont là des signes aussi évidents de profonds dysfonctionnements. Autrefois, les prix encadrés étaient la norme, ils ne le sont plus. Alors, vous avez évoqué rapidement, Jean-Jacques Hervé, dans la première partie de l'émission, le rôle de l'OMC. Alors, il y a plusieurs organismes qui peuvent être concernés par tout ce qui se passe là aujourd'hui. L'OMC, bien sûr, la FAO. Est-ce que on peut imaginer, attendre, espérer une sorte de mobilisation politique internationale forte pour lutter contre ce à quoi on assiste actuellement?
Je préfère réécouter Mathieu Brun sur ce sujet. Moi, je constate que jusqu'à présent, le mandat donné à la FAO et au Programme alimentaire mondial, au PAM, ne sont pas à la dimension de ce qu'il faudrait pour répondre aux besoins à court terme de la faim dans le monde. Et donc, manifestement, il faut un sursaut. Là-dessus, l'Europe a un mot à dire. L'Afrique, l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie doivent pouvoir s'entendre pour analyser la façon de régler le problème à très court terme. Moi, j'imaginerais volontiers une réunion spécifique sur la situation alimentaire mondiale et les accords qu'il faudrait passer pour que là où il y a du grain pour nourrir la population mondiale, on puisse le mobiliser dans des conditions raisonnables.
Mais là, ça veut dire, alors votre réunion, c'est une réunion de chefs d'État, finalement, la question, ce sont les grands groupes qui sont pointés du doigt, ou alors j'ai pas compris ils retournaient.
Mais... Non, moi, je n'en veux pas aux opérateurs. Les opérateurs font leur boulot d'opérateurs. C'est-à-dire qu'ils ont des bateaux, ils ont des grains, ils ont des demandes, ils essayent de mettre en relation ces demandeurs et opérateurs. Il faut fixer des règles du jeu. C'est pas à ces opérateurs de fixer des règles du jeu. Sinon, ça va être le mieux donnant, le mieux offrant qui va gagner. Et c'est pas à l'échelle du problème qui nous est posé. Nous sommes face à un problème de solidarité entre les hommes de la planète pour se nourrir. C'est pas seulement un problème d'arriver au meilleur prix pour le vendeur ou au meilleur coût pour l'acheteur. Donc je pense qu'il y a une initiative, peu importe d'où elle vienne. Je pense qu'il devrait y avoir un mandat, sans doute, donné par les Nations Unies pour attribuer à des organismes qui ont la connaissance de ces sujets la mission de contribuer à régler le problème à court terme. Parce que mobiliser les ressources de la Russie, de l'Ukraine, du Canada, des capacités de croissance de production. En Europe, on nous a laissé entendre qu'on pouvait augmenter considérablement. Je ne le crois pas. J'ai commencé ma carrière dans l'hydraulique agricole. Je ne crois pas que toutes ces terres hydromorphes soient particulièrement profitables. Sinon, ça se serait depuis longtemps. Et donc, je ne crois pas qu'on ait de grosses capacités d'augmentation dans l'état actuel des technologies. Par contre, le Canada a certainement des capacités de croissance. L'Argentine également. L'Australie peut-être, parce que quand même, le changement climatique touche ce pays de plein fouet. Et donc, je pense qu'il faudrait avoir en effet une discussion internationale avec, d'un côté, les perspectives raisonnables dans l'état actuel des techniques de croissance de la production et un regard dirigé pour alimenter tout le monde.
Parce que cette situation où tout flambe de toutes parts, les matières premières agricoles et puis les produits énergétiques, etc., c'est tout de même une situation assez atypique, Mathieu Brun. Tout s'enflamme en même temps. Tout est lié, mais on est sur...
Parce qu'on est sur un système d'interdépendance extrêmement fort. On a rappelé la question du rôle de l'énergie dans la production agricole. C'est une évidence. Deux mots ont été dit, c'est ceux de règles et de régulation. Quand on regarde un petit peu l'historique des crises alimentaires et des crises de production agricole, depuis ces 20 dernières années, on a eu des tentatives qui ont été faites par le G8, par le G20, AMIS, etc. On en connaît beaucoup au sein des institutions multilatérales. L'OMC est en panne sur les questions agricoles. Et aujourd'hui, il semblerait que cette crise de plus sonne aussi peut-être le glas d'une certaine mondialisation avec une forme de dérégulation. Donc ce dont on a besoin, c'est de conjuguer ce mot de souveraineté en donnant du pouvoir et de la place aux États, en particulier dans la relation et dans la coordination avec le secteur privé. Je ne suis pas en train de dire que c'est le grand méchant, on a besoin d'opérateurs, Jean-Jacques Hervé l'a dit, l'État ne peut pas tout faire. Par contre, il faut encadrer ces régulations. Alors les organisations multilatérales se sont positionnées pour dire on va aider les États à acheter leurs importations agricoles et alimentaires parce qu'ils ont besoin d'aide financièrement. Très bien, mais il faut aussi pouvoir regarder de manière précise les stocks commerciaux privés, le rôle de la spéculation, le rôle des marchés à terme, ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Et ça montrerait peut-être aussi que l'agriculture serait l'exception de plus à ce régime de la mondialisation qui fonctionne depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et que depuis 10, 15, 20 ans, la musique étant de plus en plus importante, de remise en cause, de rediscussion, de mettre à plat. Et il existe des institutions de négociation, de discussion au niveau international sur les questions de sécurité alimentaire. Utilisons-les. La France, par exemple, a beaucoup investi dans le comité à la sécurité alimentaire mondiale, les systèmes des Nations Unies, les ROMEN, comme on dit, PAM, FIDA et FAO. Allons sur ces éléments-là, questionnons vraiment ces grands enjeux que sont le stock privé et la régulation des marchés à terme notamment.
Et pour beaucoup de régions dans le monde, il y a urgence. Kako Nubukpo, vous allez nous le confirmer, c'est l'Afrique, mais pas seulement l'Afrique. Il y a aussi des régions en Asie impactées, elles aussi, avec des populations dans des situations de pauvreté. En guise de conclusion, Kako Nubukpo.
Oui, deux choses en guise de conclusion. La première, c'est qu'il ne faut pas que le continent africain soit la variable d'ajustement des excédents agricoles européens et mondiaux. Car je crois que c'est la pire des choses qu'on pourrait faire, dire il faut aider l'Afrique et pour ce faire, y déverser les excédents agricoles, comme on le fait depuis 60 ans, c'est une très mauvaise chose. La seconde chose, c'est qu'il faut sortir de ce que j'appelle la superposition des discours. Et je rejoins Mathieu, c'est-à-dire qu'on a à la fois des programmes d'ajustement structurel portés par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'OMC, qui nous ont demandé de tout libéraliser, de tout déréguler depuis 50 ans. Et aujourd'hui, on se dit, mais finalement, ces gens, ils n'arrivent pas à produire pour se nourrir. Et il faudrait quand même qu'ils puissent le faire. Et donc, on a un discours qui est à la fois néolibéral, quand ça arrange la doctrine internationale, mais ce discours peut devenir protectionniste lorsqu'il y a une dictature des urgences, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Donc moi, je plaide pour une cohérence des politiques publiques, une cohérence des discours, et reconnaître que notre solidarité est quelque chose qui devrait être perçu comme un bien commun. Parce que ce n'est qu'une seule planète et c'est une seule et même humanité.
Bon, j'ai pas le temps de laisser la parole aux intervenants en studio, mais je dois dire qu'ils ont tout à fait acquiescé à votre propos. Merci Kako Nubukpo. Je rappelle que vous étiez avec nous par téléphone depuis Ouagadougou au Burkina Faso et que vous êtes commissaire chargé de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Merci aussi à Jean-Jacques Hervé, président de l'Académie d'agriculture de France, membre de l'Académie des sciences de Russie et de l'Académie des sciences agraires d'Ukraine, et Mathieu Brun, directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, FARM, chercheur associé à Sciences Po, Bordeaux, co-directeur de l'ouvrage, donc le Déméter édition 2022, qui a pour titre Alimentation, les nouvelles frontières. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher. À très bientôt.